Voilà, on va avoir ce thème ce matin qui est sur mon cœur depuis quelques temps. Et on va partager ensemble sur cette thématique abattre les faux raisonnements. Abattre les faux raisonnements. Abattre les faux raisonnements. Je vais vous faire une petite expérience pendant un instant. Là, tout de suite. Parce qu'on va se donner 10 secondes. Pendant 10 secondes, vous allez tout passer. C'est bon. Non, c'est pas dit, en fait. C'est pas dit parce que demain, ici, il est en train de penser qu'il a une grande suivi. Demain, ici, il est en train de penser à ce qu'il va nous raconter derrière. La réalité, c'est qu'on ne s'arrête jamais de penser. Tout le temps, vous êtes constamment en train de réfléchir. Quand je dis, vous êtes dedans. Constamment, on est en train de réfléchir. On réfléchit tellement, tellement, qu'il y a même des moments où on réfléchit tant qu'on n'arrive pas à dormir. Ça vous a dit? Quand on a fait une ligne, c'est vrai qu'il est vivant, non? Des moments où tellement qu'on est préoccupé par des raisonnements, par des façons de penser, que tu n'arrives plus à vivre ta vie. À chaque fois qu'on réfléchit, à chaque fois qu'on pose des questions, et je crois que, et je suis persuadé que le raisonnement est à la fois bon et à la fois bon. Je crois que le raisonnement peut nous amener dans des dangers de vie spirituelle. Mais je crois aussi que le bon raisonnement peut nous amener à découvrir vraiment qui est Dieu. Et ce matin, on va pas tenter d'abattre les raisonnements, mais on va tenter d'abattre les bons raisonnements. Ceux qui te détruisent et qui te loin de la présence de Dieu. Ceux qui sont appelés dans la vie des voies terrestres de raisonnement. Ceux qui ont fait ta vie, c'est ces raisonnements qui font que tu n'as plus à progresser dans la foi. Parce que simplement, tu raisonnes constamment. C'est pas compliqué, comment ça marche. Alors que tu as une situation qui est compliquée pour toi, tu mets tout en avant et tu essaies de dire, ok, ça devrait se passer comme ça, peut-être comme ça, peut-être comme ça, mais finalement, ça ne se passe pas vraiment comme ça.
Si tu te dis, ça devrait
arriver comme ça, et puis tu n'arrives jamais comme tu penses que ça devrait arriver. Tu veux toi-même des raisonnements sur ta vie, sur ton passé, sur ton futur, sur ton présent, et tu te dis ça devrait se passer comme ça. Et tu raisonnes à toi-même. Et ça va jusqu'au point de dire, mais dans la situation par laquelle je passe, c'est tellement difficile que je pense que Dieu finalement m'a oublié. Et malheureusement, c'est faux. Enfin, heureusement, du coup, c'est faux. C'est vrai qu'on peut se réfléchir à tous ces raisonnements qui nous pourrissent. Nous empêche de progresser spirituellement. Paul va dire nous renverser les faux raisonnements. Et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Christ. Ça veut bien dire qu'il y a des faux raisonnements dans la vie. Vous êtes OK avec ça? Je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez bien dans la Bible qui s'appelle Saul. Et qui va aussi s'appeler Paul. Non, Paul, je ne sais pas, ça dépend des O, comment on le prononce, ça dépend des O. Je viens de parler d'un homme qui était rempli de raisonnement, qui savait tout sur tout, qui avait des pensées, il avait des yeux en plus de plus grand, il savait des yeux en plus d'amagnole, et c'est celui qui connaissait tout sur tout. Il était rempli de raisonnement. Et il y a un moment dans sa vie où Paul a dû devenir, où Saul, pardon, a dû devenir Paul. On va lire ensemble Actes, chapitre 9, les versets. On est sur le temps de la conversion de Saul de Tarse, qui va s'appeler ensuite Paul. Cependant, Saul respirait encore la menace et les marques contre les disciples du séminaire, se rendit sur le souverain contre le sacrificateur et lui demanda des lettres pour le synagogue de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, homme ou femme, il les emmène en ligne à Jérusalem. Comme il était passé loin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il lui répondit qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regarder contre les églises. Tremblant et saisi de toi, il dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Vous entendez bien la voix, mais ne voyez personne. Seul se releva de terre. Et quand ce fut vous qui vous ne voyez rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Et il y a trois jours sans voir, il ne mangea ni bu. On va descendre quelques versets à l'Évangile 17. Alors, il est sorti et la petite arrivée dans la maison, il apaisa les mains à Saul, après Saul, le frère. Et le Seigneur Jésus, qui est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres de la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvrit la vie. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, la force qui le vint. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et de tout temps, il prit sa rédemption avec Jésus et le Fils de Dieu. Amen. Comment un homme tueur de chrétiens va devenir la porte de la grâce? Comment un homme qui, en plus, pensait qu'en tuant les chrétiens, se débarrassant d'eux, il agréait Dieu et il était en faveur de Dieu, va devenir la porte de la grâce qui va aller prêcher à ceux qu'il considérait comme un juif? Comment Saul, rempli de raisonnement, va devoir abandonner ce raisonnement pour découvrir tout de Jésus-Christ et devenir la porte de la grâce? Je crois que c'est ça que, dans la conversion de Saul, nous avons besoin aussi de comprendre que nous sommes nous-mêmes, parfois, simplement remplis de raisonnement. Et on pense qu'on fait bien, on pense qu'on avance bien, on pense qu'on connaît les choses bien, mais Dieu a besoin de nous confronter dans nos raisonnements. Pour dire maintenant qu'il va découvrir ma façon de penser. Et il a fallu que Paul, à un moment, tombe de sa femme, soit rempli de la lumière de Christ, soit aveugle pendant un instant, pour découvrir comment Dieu est capable de changer le raisonnement du monde. Savez-vous que le raisonnement, c'est encore plus difficile à calculer? Quand on t'a enseigné pendant des années que c'était comme ça que ça devait fonctionner, et qu'il faut à un moment dire, mais il y a peut-être autre chose. Qu'est-ce que c'est que le raisonnement de Dieu? Voilà, je vais prendre un petit dictionnaire, bien. Je vais corriger les erreurs. La définition du raisonnement, c'est que le raisonnement est un processus cognitif. C'est la définition, je pense que là, voilà, merci. C'est un processus cognitif qui permet d'obtenir de nouveaux résultats ou bien de vérifier la réalité d'un fait en faisant appel soit à différentes lois. Quand on parle des lois, moi, dans le pays. Ouais, je sais pas, vous voulez dire? Soit à des extérieurs, comme les frères qui me parlent aussi. Quel que soit leur domaine d'application, mathématiques, système judiciaire, comme physique, pédagogique, etc. Le raisonnement, c'est ce processus qui se met en place dans ta tête quand tu penses à un raisonnement et tu commences à analyser les choses. Alors, j'aimerais vous dire tout de suite, quand tu Dieu nous a doté d'une raison. Dieu nous a doté d'un bon sens. Le raisonnement permet à beaucoup de choses de négatives. Il ne faut pas qu'on confonde le terme raison au sens philosophique. Le terme raison comme il est présenté dans la Bible. Ici, le raison, il nous amène à savoir apprécier avec justesse la valeur des choses, la valeur des gens. Concéder le discernement. Dans le Proverbe 13:15, il nous parle de raison saine. La Bible nous parle d'un culte raisonnable. Vous avez bien entendu? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Culte raisonnable, rationnel, logique, c'est un culte qui répond exactement aux exigences de Dieu. C'est la discipline logique qui nous permet de faire attention justement à ne pas confondre un raisonnement avec la logique de Dieu. Mais la Bible nous parle de nombreuses doctrines de gens, d'hommes et de femmes qui sont remplis de raisonnement. Et qui finalement, à force de raisonnement, remis en question la capacité de Dieu à agir. Permettez-moi de vous parler pendant un instant des dangers du faux raisonnement. Si on prend l'exemple de Paul, oui, à l'époque, il n'est pas encore Paul, il savait pertinemment comment appliquer les lois. Il savait qu'il était rempli de raisonnement, il savait qu'il fallait se débarrasser de cette question-là. Il savait exactement, il était rempli de raisonnement. Mais je crois que le raisonnement nous amène simplement et profondément à nous faire douter de la grâce et la puissance de Dieu. Je vous l'explique. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où la maladie doit être touchée? Où les doutes commencent à se faire. Tu viens te dire que tu es le bien possible à venir dans cette situation. quand tu passes à une situation tellement dramatique, tellement compliquée, Dieu peut-il agir? Dieu a-t-il la capacité pour réellement se mettre en action? Dieu est-il capable? Dieu peut-il faire? Le deuxièmement, c'est celui qui va t'amener à penser à Dieu, mais finalement, au bout de la situation, c'est tellement compliqué que Dieu ne peut pas agir pour moi. Pour aller plus loin, le raisonnement, c'est celui qui va t'amener à douter de la grâce de Dieu. J'ai tellement été loin dans ma situation de péché. J'ai tellement été compliqué dans mes choix. Comment Dieu peut-il m'aimer encore aujourd'hui? Je me suis aussi tellement trompé tant que moi. Le raisonnement va t'amener à douter de Dieu. Le raisonnement va t'amener à douter de la grandeur de Dieu. Regardez cet exemple. Je vous donne l'exemple dans la version d'Abu. C'est Jésus qui veut faire et qui veut guérir un paralytique. Et lorsqu'il y a des paralytiques devant lui, il y a des hommes qui arrivent et qui disent: mais pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi? Il dit: personne. Qui peut pardonner le péché sinon un seul Dieu? Pourquoi est-ce qu'on va faire une solution? Parce qu'ils sont basés sur le raisonnement de la connaissance de l'enterrement. Et aussitôt Jésus connaissait que l'histoire dans son esprit, qu'il raisonnait ainsi en lui-même, il a dit: pourquoi faites-vous ce raisonnement dans vos cœurs? Lequel est le plus facile? De dire aux paralytiques: c'est personne qui s'est pardonné, ou de dire: toi, prends-toi lui et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit aux paralytiques: je te le dis, lève-toi, prends ton petit lit, va dans ta maison, et il se leva, aussitôt. Hein? Et après son petit lit, il sortit à la présence de tous, et de sorte qu'il voit tout ce qu'il est, et qu'il glorifie Dieu en disant: il ne vit jamais par la lecture. Qui a été guéri dans les deux? Par exemple, ou l'autre? Pourquoi? C'est vraiment parce que le Père de Dieu s'est pris en plus à ce moment-là de raisonnement. C'est pas comme ça que naturellement ça doit se passer. C'est pas un truc qui doit se passer comme ça. La loi dit que c'est pas comme ça. Si tu as appris la loi, tu vas offrir des sacrifices et des sacrifices. Mais Jésus vient expliquer à ce moment-là qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il a la capacité de guérir. Qu'il a la capacité de relever. Et tout ça te ramène à ça. Parce que Dieu agit aujourd'hui, malgré tes raisonnements, tes doutes, tes inquiétudes, Dieu agit aujourd'hui. Combien de fois on a raisonné humainement dans les situations qui disent que ça s'arrête jamais? Je crois vraiment que Dieu est encore capable d'agir. Il marche même par la vie, mais par la foi. Amen. Tant que c'est ça, c'est que tout. Parce que des fois, on peut faire du temps de regarder avant les situations. Mais, vous voyez, c'est bien pourquoi je passe par là. J'aurais bien pu comprendre quel est le chemin par lequel je passe. Pour un moment dans ma vie, il y a des stops. Je ne comprends pas tout de suite. Pourquoi? Dieu dit simplement, je demande de marcher par la foi, mais je ne comprends pas le chemin par lequel je suis en train de passer. C'est pas trop compliqué. Je dis souvent, les raisonnements, je ne comprends pas, je ne veux pas les baser sur ces raisonnements. Je vais aller plus loin dans un deuxième temps, c'est que le raisonnement remet en cause la parole de Dieu. Lisons ensemble Jacques 1:22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole, il ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après se fait regarder son vin et oublie aussitôt qui il était. Et celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, ne pas méditer à l'oublier, et se mettant à l'œuvre, c'est lui-même qui sera heureux dans son activité. Amen. Vous savez, vous pouvez lire la Bible pendant 2 années sans rencontrer Dieu. Vous pouvez analyser la Bible, faire des études de la Bible, vous pouvez lire la Bible tous les jours sans réellement rencontrer Christ. Et si tu lis la Bible avec ton raisonnement, tu vas lire avec un filtre. Et pour tout ce que tu lis, je préfère le savoir sur le filtre. Et la Bible nous encourage à simplement changer de raisonnement, de vision. Vous avez des grands théologiens qui connaissent la Bible par cœur, mais qui n'ont pas expérimenté la présence et la puissance de Christ en nous. Quand ils connaissent les Écritures parfaitement, mais la vérité raconte Jésus sur le chemin de Damas. Il faut que ce raisonnement parle, que les écailles des yeux tombent, et que tu puisses découvrir la loi, parce que la loi de la liberté. Tu peux mettre des principes sur les gens, tu peux imposer des choses aux gens. Tout ça, tout parce qu'il ne faut pas ça, et c'est ça qui va faire connaître le Christ. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas comme ça que ça marche. les raisonnements, la façon, les règles que tu mets en place. C'est pas ça qui te fait accéder au ciel. La seule chose qui te fait accéder au ciel, c'est la foi en Jésus-Christ, celui qui sauve, qui délivre, non pas par tes œuvres, mais par la puissance de Christ, à cause de son amour. Amen. Beaucoup de personnes connaissent beaucoup de textes, mais connaissez-vous vraiment Christ? Comment analysez-vous les textes? Par contre, il y a plein de gens qui disent « Ah non, moi, ça ne concerne pas, c'est certainement pour ma femme, ça. » Ça ne peut pas me concerner mon cœur, alors que Dieu décide de parler de toi. Parce que si vous êtes raisonnement, si vous êtes bon cœur, vous savez, Dieu ne souhaite pas d'être chrétien d'apparence. Dieu souhaite d'être chrétien dont le fond est travaillé, dont le cœur est travaillé. Mais si la parole de Dieu, quand tu l'apprends, elle doit te nourrir, elle doit rentrer en toi, elle doit produire ce qu'elle fait. Elle doit changer à l'intérieur. Elle ne doit pas être opposée à tes raisonnements et à ta façon de penser. Dieu a une puissance à défendre le fond des raisonnements. Il nous amène à nous éloigner de la présence de Dieu. La Bible nous dit, et je pense que c'est un texte qui est important, que, en effet, les perfections invisibles de Dieu, ses puissances éternelles et sa divinité, qu'il voit que depuis la création du monde, elles se comprennent par ce qu'il a fait. Et ça veut dire que quand on regarde dans une autre vie, on comprend Dieu. Quand on regarde la création, quand on regarde ce qui a été mis au milieu de Dieu, là, il nous parle de ces gens qui sont inexcusables parce que tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'ils méritaient. En tant que Dieu, ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, écoutez bien, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est-à-dire que le moment de notre vie, il faut bien qu'on comprenne, c'est que la forme de raisonner qui témoigne de la présence de Dieu. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Parfois, tu vas venir dans ce lieu en disant, oui, je suis l'amour, j'ai bon mis, je crois qu'on passe un bon temps dans la présence de Dieu. Et là, malheureusement, les gars qui jouent, ça a dit qu'on a déjà fait. Alors, il permet que, et là, tu dis, bon, ça ne peut pas être une bonne mémoire. Le moment où je vais voir, c'est peut-être du guitariste. Ça dépend de la présence de Dieu. Je vous donne un exemple. Vous allez comprendre. J'étais pasteur dans une petite église et j'habitais à 42 km de l'église. D'accord ? On venait d'avoir mon fils, mon premier, et je vous avoue que le nuit était compliqué. Moi, je dis souvent dans notre éducation que c'est compliqué. Mais au final, ça va passer. En plus de ça, je dois faire un nouveau travail en tant que prof. Et là, j'étais prof dans un collège sensible. Et là, je m'étais pris la tête toute la journée avec les élèves. Voilà, très bien, tout va bien, tout est bon. Et puis, j'ai la réunion primaire en fait. À 42 km, alors il est 6 heures, je prends la voiture, je roule, et je vous avoue, je n'ai pas fait mes études. C'est pas vraiment, je ne vais pas dire ça. Et je vous avoue, vous avez beaucoup de raisonnements. C'est l'heure, je vais partir là-bas, il va y avoir 4 mois. Ça va être long, j'ai pris le 5 fois, et quand j'ai pris le premier, il n'y a encore personne qui l'a pris. Excusez-moi, je partage mon cœur, je ne dis pas vous, je ne dis pas personne. Mais là, c'est vrai, je dis, ça va être très long. Donc, vous comprenez bien les raisonnements qui sont dans ma tête à ce moment-là. Et puis, j'arrive à l'église, je suis content de voir les amis, vraiment, je suis content de les voir. Parce qu'il y a les 5, 6, 6 ans, les gens. Oh, on va mettre un petit peu, ça, c'est 40 ans. Et puis, alors que j'arrive là, manque de bol, ce soir-là, il y a une nouvelle personne. Et je dis à Dieu, mais tu n'as pas pu l'amener à ce moment-là, tu n'as pas dit que tu m'aimes, pour montrer que l'église, elle va bien. Et on demande les autres amis, enfin, je ne sais pas du coup maintenant. Alors, on commence à la réunion, et Dieu m'a donné un thème sur lequel, pour traiter les amis, ce n'est pas super créatif, c'est compliqué, je vais mettre les raisonnements en avant. Et tout le monde s'est apprécié et on passe un temps, vraiment, on passe un bon temps dans la prière. Et puis, on va se voir et je dis bon, la première, c'est tout ce qu'il fait. Et la personne qui vient me voir, elle vient de discuter, et elle me dit, vous savez, dans votre social, vous avez dévoilé toute ma vie. Est-ce que vous pouvez prendre un temps pour discuter avec Dieu? Parce que j'ai besoin de rencontrer Jésus. Il y a un instant que je t'ai dit que tu ne viendrais pas. C'est-à-dire que tous tes raisonnements c'est peut-être après ça que c'était un gars qui avait voulu sa vie de Jésus-Christ. Et je me suis fait vraiment après parler quand j'étais seul de retour. Parce que je me suis rendu compte que j'ai limité Dieu dans ma maison. Profondément. J'ai limité Dieu vraiment. Et dans le coup, avec cette personne-là, cette personne qui m'a mis en discussion pastorale, j'avais un temps de discussion avec lui. Et Dieu m'a vraiment parlé de son Dieu. En me disant, tu m'as limité. Et je suis revenu vraiment profondément vers lui. Je lui ai dit, vraiment, je te demande pardon, Dieu. Parce qu'à cause de ça, si je n'avais pas été jusqu'au bout, peut-être que cette personne ne l'aurait rencontré, j'avais rencontré Dieu. Je l'ai dit, c'est vrai. Si vous voulez que vous allez prendre la place de ce que Dieu veut faire dans ton service d'accueillement que tu veux, c'est que lui, tu es le Dieu. Et parfois même dans le service, il a rencontré Dieu. Il a besoin de Dieu à venir ce qu'on a mis en avant. Amen. La Bible nous dit, sur le deuxième point, que pour abattre le faux raisonnement, on doit lui donner quelque chose. Donc, en Matthieu 13, il nous dit, si nous marchons dans la chair, nous combattons, nous ne combattons pas selon la chair. C'est Paul qui parle. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour, on va dire ensemble, renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se met contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là, Paul? Les Corinthiens sont en train de nous reprocher en disant mais tu nous utilises de l'être bien difficile. Mais quand tu es devant nous, tu ne fais pas le malin. Et Paul est en train de dire mais tu sais que je deviens dur. C'est pour qu'il faut que j'aille comprendre, mais ce n'est pas comme ça que je me bats. Je n'ai pas envie de me battre charnellement, je n'ai pas envie de me battre avec des raisonnements. J'ai envie de me battre spirituellement, avec les armes que Dieu me donne. Ce ne sont pas des armes spirituelles, des armes charnelles. Mais des âmes spirituelles. Les raisonnements te créditent des ennemis charnels. Et il faut ce matin, quand ils disent Seigneur, bien souvent, j'ai eu des raisonnements qui m'ont empêché de m'approcher de toi. Et je veux ce matin renverser ces raisonnements. Je veux essayer de continuer à fonctionner comme je fonctionne. Et comment renverser les raisonnements? Je crois que la Bible nous dit dans le livre de ce texte, nous allons tout penser captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que tu prends tes pensées, tu prends tes raisonnements et ta façon de penser, et tu les mets au filtre de la lumière de Christ. Qu'est-ce qui s'est passé pour Paul et qu'il a fait mettre ça pour Paul, pardon? C'est qu'il a vu la lumière de Christ a percuté ses raisonnements. Je suis Jésus que tu persécutes. Jésus s'est révélé à lui. Et les raisonnements de Paul et de ta sont tombés. La Bible nous dit que Christ est la véritable lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est quand tu vas être au contact de Christ que tes raisonnements vont changer. C'est quand tu es au contact de Christ que j'ai compris que cette soirée-là, quand j'étais avec ces jeunes, il fallait que je sois là pour témoigner de l'amour de Christ et que mes raisonnements vont être tombés. C'est au contact de Christ que sa lumière. Que tes raisonnements et ta façon de penser dans ta vie. Parce que nous, c'est une autre lumière de clair, tous les mêmes nombres de tes vies. Je vais vous lire le même texte qu'on a mis juste avant, mais dans une autre version. La version parole du ventre. La Bible nous dit, c'est toujours dans le texte de 2 Corinthiens 10, la Bible, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Nous avons pensé, nous avons pris de nous toute pensée rebelle. Nous l'amenons, vous savez, nous raisonnons la façon dont nous les amenons à revenir au Christ et à reconnaître son autorité. La réalité, c'est que c'est tomber ce raisonnement. Tu dois reconnaître l'autorité de Christ sur ta vie. Sur chaque domaine de ta vie. Même si c'est les événements qui ne comprennent pas. Même si le moment est plus difficile de ta vie. Et tant que tu raisonnes avec Dieu, tu ne progresses pas sur ta vie. Et tout le monde est Dieu qui est en vie. Parle avec tout mon cœur, c'est moi-même qui connais de ça. Tant que tu raisonnes avec Dieu, tu ne peux pas progresser au sujet de ta vie. Mais alors, il n'y a pas de solution que tu ne veux pas. C'est tout. Simplement, je suis là, mes pensées, ma façon de penser, et que ce soit toi qui es dans ma vie. Et je reconnais ton autorité dans ma vie. Quand tu es dans ton autorité. Je vais vous dire, dans un deuxième temps, que toute la lumière de Christ vient dans notre vie, ça va nous amener à découvrir la nécessité de bien raisonner. Il arrivait qu'il y a des.
Arrêtez de penser.
Vous avez mal parlé. Est-ce que vous avez mal parlé? Pas mal. Je n'ai pas tout à fait mal. C'est pas ça. C'est tout, je veux dire. Vous avez mal parlé, un vocationnement qui vous donne la capacité de bien raisonner. Si tu laisses Dieu, je vous en prie. Vous avez mal parlé? Je vais vous donner un exemple. J'ai fait un discours il n'y a pas longtemps avec des amis et quand on était des enfants, on avait une prière pour construire une maison. Donc on avait tout fait, on avait le plan, la banque avait accepté, et alors qu'on est avec son ami, on demande du permis de construire, le permis de construire, il refusait. Et on s'est dit, nous on avait dit à Dieu dans le plan, Seigneur, tu veux ton plan, alors tu liras le texte, si tu n'as pas ton plan, tu fermeras le texte. Et tout se ferme. Alors qu'on a eu des choses juste extraordinaires, parce que le promoteur était un chrétien, on avait partagé avec nous, on avait vraiment partagé les bonnes idées, c'est extraordinaire, on avait tout le temps fait. Mais là, à ce moment-là, le cercle se ferme. La question que je me pose, est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai désobéi à Dieu en disant qu'on fait cette maison? Alors, c'est moi, j'ai ma vraie tête. Tu m'as dit? Tu dis? C'est prévu que tant de cœur, le temps de l'homme, mais la réponse que dans la vie, c'est le temps de l'homme. J'ai compris que ma vie, c'est le temps que je peux faire des projets, je prie pour ça, et je dois accepter la réponse de Dieu. Tu peux faire des projets dans ta vie, tu peux bien raisonner, c'est Dieu qui donne simplement la réponse. Et on a besoin de travailler avec le Seigneur, travailler dans mon cœur pour que j'apprenne à bien raisonner. Je pense que c'est important de comprendre qu'on n'aime pas lui-même. À Dieu, un moment, on peut les donner et se poser de bonnes questions. Regardez, vous connaissez le père de Bernadette? Oh, ok. Le père de Bernadette, finalement, il y a un sujet qui pose problème. Le sujet qui pose problème, c'est que certains disaient qu'il fallait être circoncis pour être sauvé. Je le vois, on sait que ce n'est pas le cas. Mais à l'époque, ça pose un vrai problème. Alors, qu'est-ce que c'est le père de Bernadette? Et là, ils vont simplement, on aurait pu dire, ils vont tracer ça depuis le début, non? Ils vont rentrer à Jérusalem, ils vont rencontrer les enfants, les équipes, et ils vont commencer à discuter, ils vont prendre une décision ensemble, et ils vont simplement ensuite transmettre cette décision. Je ne sais pas, le Bernadette, c'était une lettre locale. Pas du tout. Mais le fait de monter à Jérusalem, de partager avec les anciens, ils vont revenir ensemble, ils vont partager ensemble. Ils ont essayé de se produire dans leur décision et ils ont pris la bonne décision. Et on sait qu'on a pris par la foi en Jésus-Christ et nous sommes tous. Amen. Tandis que dans le reste, il y a un moment de vraiment raisonner, de bien raisonner. Alors, qu'est-ce que c'est que le bon raisonnement? Je crois que raisonner, en réalité, le bon raisonnement, c'est celui qui est animé par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Parce que si l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est lui qui va transformer notre esprit, c'est lui qui va vendre notre esprit. Et qu'il va travailler à l'intérieur pour que nous raisonnions non pas en fonction de nous-mêmes, mais en fonction du Saint-Esprit qui est de ta vie. Amen. Permettez-moi de vous dire un texte. Je vous dis un texte, je sais que je ne vais pas trop faire. Alors, vous êtes là. 1 Corinthiens 2, 3. Maintenant, il est un meilleur enfant. De plus, quand vous servez chez vous, c'est Paul qui parle, vous me sentez bien servi. Et vous tremblez de crainte. Mon enseignement et ma prédication. Ne répondez pas sur le fait que le discours pour choisir de l'extérieur, ou on peut dire que c'est raisonnement. Mais si l'action manifeste la puissance de l'esprit, ainsi la puissance est fondée sur la sagesse humaine, mais c'est la puissance de Dieu. Cependant, même si nous enseignons une sagesse aux chrétiens, spirituellement adulte, il ne s'agit pas, bien entendu, de ce qu'on appelle sagesse dans ce monde, ou de la sagesse du plus grand ce monde qui sont destinés à disparaître. Non. Nous nous faisons une sagesse de Dieu, secrète, Les quatre trésors qui demeurent cachés au monde. Vous l'avez préparé avant le commencement du monde, au lieu de notre communion, notre gloire. C'est sans espoir. Les grands de ce monde ne la connaissent pas, car si vous avez connu, vous n'aurez pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais comme vous l'écriture, il s'agit de ce que le miel n'a pas vu, ce que le vin n'a pas entendu, ce que le ciment n'a jamais supposé, et que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. Dieu lui a révélé par son esprit, le ciel et ses scriptures, même les pensées les plus intimes de Dieu. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Seul l'esprit de cet homme qui a mis le feu. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous avons l'esprit, non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, et que nous comprenons tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Nous en parlons non avec le cœur et parfois la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, ainsi nous exprimons le réalité spirituelle dans lequel inspirons pour l'esprit. Amen. La réalité, c'est que plus que nous communions avec l'esprit de Dieu, plus nous cherchons la grâce de Dieu. Toutes les pensées qui désormais seront en accord avec ce que Dieu veut. Et on a besoin d'une église de ne plus remplir de ce que rempli d'esprit. On a besoin de chrétiens qui se tiennent devant la face de Dieu, qui siègent la face de Dieu, et qui disent Seigneur, je veux plus raisonner humainement, mais je veux raisonner comme toi qui raisonnes. Je veux penser comme toi qui penses. Je crois que Dieu est capable de faire ça. Est-ce qu'on veut bien prier ensemble? C'est avec une histoire de besoin. On va répondre un instant avec elle. On va prendre ce temps-là. C'est vrai qu'on puisse simplement dire Seigneur, donnez mes raisonnements, donnez mes doutes et mes inquiétudes. Tu connais ce qu'il y a dans mon cœur. Et tu connais comment je toujours analyser la situation. Et ce matin, j'aimerais vraiment que mes pensées soient plus claires, soient reliées dans mon cœur, pour que tes pensées soient mes pensées, pour que les décisions que je prends soient maintenant avec ce que tu as fait. Que nos raisonnements tombent, pour que nos forteresses de raisonnement, pour que nos analyses tombent au profit de la foi de Jésus-Christ. Je ne pense pas que tu aies un peu de Christ. Tu es le désir de ce qu'il est partagé dans l'exemple. J'ai besoin d'abandonner comme toi tous les secondes. Je ne crois que tu es capable de faire ce que tu as. C'est le monde de ta part de passion. C'est le monde de ta part de destinée. Je sais que tu ne vas pas être très bien en bas. Thank you.